Kentucky dénonçant la mainmise du Hezbollah.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à vous tous, auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous parlons de la bénédiction de l'union des couples homosexuels par certains prêtres catholiques en Allemagne. Eric Manilakiza, en votre compagnie, Lionel Lunanilagahima assure la mise en ordre. Plus de 100 églises en Allemagne ont organisé le 10 mai 2021 des cérémonies de bénédiction des couples homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels. Des prêtres et diacres allemands ont donc défié le Vatican qui a récemment réaffirmé sa stricte opposition au mariage entre personnes du même sexe. Est-ce un début de la modernisation de l'Église catholique ? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Notre premier invité, Jean-Pierre Bongila, professeur de leadership à Saint-Thomas dans le Minnesota. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous êtes également prêtre.
Oui, je suis prêtre catholique, oui.
En France, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, Athanase Karayenga, journaliste et consultant indépendant. Bonsoir Athanase.
Bonsoir Eric.
Je signale que vous connaissez aussi les arcanes du Vatican.
J'ai moi-même suivi une formation, pas de prêtre, mais de demi-prêtre, puisque j'ai juste fait le petit séminaire. Je ne suis pas allé jusqu'au grand séminaire et je connais bien le Vatican parce que j'ai effectué plusieurs missions concernant la visite du pape Jean-Paul II au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire.
Merci à vous tous d'être avec nous. Professeur Bongila, je vais commencer par vous. Ce n'est pas la première fois que l'Église connaît une situation d'acte de rébellion. En 1969, des couples de fidèles ont protesté contre l'Église catholique qui s'opposait au contrôle des naissances. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une fronde dirigée et organisée par des prêtres. Avez-vous été surpris?
D'une manière ou d'une autre, j'avais été surpris parce que je ne m'attendais pas que la réaction viendrait de l'Allemagne. Je pensais que ça pouvait venir peut-être des États-Unis, mais ce n'est pas une grande surprise que finalement les prêtres prennent le leadership dans cette histoire. Mon intervention ici n'engage pas mon diocèse ou l'Église, mais je vais faire, comme tout le monde peut-être, une lecture relativement objective de la situation, de la société. La société est en train d'avancer et donc les prêtres allemands ont pris les choses entre les mains en se révoltant. Personnellement, je ne suis pas en faveur de la révolte, mais nous devons étudier les cas tels qu'ils se présentent et proposer des solutions adéquates selon que la société est en train d'avancer. C'était d'ailleurs, par exemple, l'objectif du Vatican II, c'était de réactualiser l'enseignement de l'Église vis-à-vis de la société comme elle changeait. Et je me dis que la société est en train de changer, l'Église certainement aura à se réadapter d'une manière ou d'une autre.
Athanase, il y a Hans Albert Gunn en charge de l'Église au Brunswick, c'est en Allemagne, depuis 1985. Il a dit, je cite, « Les bûchers ont été abolis il y a longtemps, je n'ai pas peur, il n'y aura pas de conséquences ». Il fait partie des prêtres, justement, qui ont béni cette union de couples homosexuels. Athanase, il assume totalement cet acte de rébellion.
Oui. Mais comme disait mon prédécesseur, je pense qu'on va vers une société de liberté. Moi, je m'étonne toujours que les gens aient des positions dogmatiques, définitives, fermées, intolérantes, par rapport à la sexualité des uns et des autres, par rapport au célibat des prêtres, par rapport au mariage des prêtres, par rapport à toute la relation humaine entre hommes, femmes. C'est une relation humaine d'abord, c'est une relation d'amour, d'amitié. Et je pense que petit à petit, même si ça passe par une rébellion, limitée sans doute, sans église en Allemagne, c'est important, mais c'est quand même pas toute l'Europe ou toute la planète qui se révolte. Mais c'est quand même un signe que cette question, notamment de la sexualité au sein de l'Église catholique, est en train de bouger, va bouger, et très probablement vers une tolérance, une plus grande liberté. Et puis surtout, mon Dieu, mais qui fixe la norme dans la relation entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes? Ce sont les hommes eux-mêmes qui sont concernés, les femmes qui sont concernées. De quoi se mêlerait l'Église à vouloir rigidifier ces relations, puisque l'Église, elle a fait un choix, l'Église catholique, j'entends, d'imposer le célibat. C'est même pas un dogme religieux, ça ne sort pas de la Bible, ça ne sort pas des enseignements de Jésus, c'est un accommodement entre prélats ou papes ou qui s'est accompli il y a plusieurs siècles. Mais laissons donc la liberté aux enfants de Dieu. Si un prêtre veut se marier, mais il peut, de mon point de vue. Si un homme veut se marier à un autre, mais c'est leur problème, c'est leur liberté, c'est leur amour. De quoi on se mêle? On va vers une plus grande liberté, une plus grande tolérance, et qu'on oubliera de dire il est homo, il est bisexuel, il est hétéro. Mais c'est la liberté des hommes et des femmes que Dieu a fait égaux et libres, en définitive.
Donc pour vous, c'est un enjeu social plus que religieux.
Mais il n'y a pas de religion dedans. C'est un accommodement entre papes et cardinaux d'il y a plusieurs siècles. Mais d'ici, avec le recul du temps, évidemment que l'Église va changer, est en train de changer, a changé. Regardez la façon dont Luther a provoqué le séisme de la réforme. Il se révoltait contre le simonisme, quand l'Église catholique vendait des indulgences et en contrepartie ramassait des lingots d'or, des magots, des fortunes et pillait littéralement les chrétiens. Luther en allemand, encore un, qui a dit non, stop, on ne peut pas vendre l'au-delà à coup de paupérisation des chrétiens. Les papes ou le pape de l'époque ne l'a pas entendu, il est parti, il a créé la réforme luthérienne. Et attention, les Allemands, ça rigole pas.
Professeur Bonguila, un archevêque croate a demandé pardon lundi aux homosexuels qui se sentent rejetés par l'influente Église catholique. Une démarche sans précédent dans le pays conservateur des Balkans, il dit, certains catholiques veulent servir le Christ et l'Église par la discrimination, l'agression et la violence en visant les personnes homosexuelles. L'ecclésiastique a profité de la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie pour regretter que les encouragements du pape à respecter les gays restent d'être mortes chez certains fidèles. Le pape a écrit en 2016 que chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et traitée avec considération. Votre commentaire?
D'abord, par rapport à ce que Athanase disait tout à l'heure, ma position est plus nuancée que celle-là. Je ne veux pas à l'extrême pour dire que nous devons faire la liberté pour la liberté, mais nous avons des normes éthiques à respecter et des normes religieuses à respecter. Autrement, la société sombre dans un chaos indescriptible. Je me dis que ce que l'évêque là a dit, ça se ramène à ce que le pape avait dit lui-même. Il a cité le pape qui a dit que nous devons entrevoir la possibilité des unions civiles pour des personnes homosexuelles. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le pape n'a pas dit qu'il voulait des mariages religieux pour les homosexuels. Le respect est voulu pour les homosexuels, même dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le catéchisme il y a 20-30 ans. Mais maintenant, il est dit clairement que les homosexuels n'ont pas choisi leur orientation, qu'ils sont nés avec cette orientation-là. Mais comme toute personne humaine en relation avec d'autres humains, il est important que nous fassions attention à ce que nous ne sombrions pas dans le péché. Je sais que la propagation pour la foi est allée directement pour dire que l'acte homosexuel est un acte pécheur. Et de la même manière aussi, ils expliquent que des couples peuvent être aussi dans un acte pécheur, quand ils vont dans des relations en dehors de leur couple, tout comme un prêtre peut être aussi dans des actions pécheresses, l'Église nous ramène à ce que nous devons faire comme enfants de Dieu, obéir à la volonté de Dieu. Athanase a parlé aussi d'un dogme dans l'Église catholique du mariage de prêtres qui pourrait être libéralisé, que ce serait un choix. Dans toute société, nous savons qu'il y a des choix, même si Athanase dit que ce n'est pas biblique, mais nous savons aussi que Jésus ne s'était pas marié. C'est une discipline que l'Église s'est imposée. Dans le temps, ce n'était pas comme ceci. Mais quand tu veux embrasser une société, que ce soit une organisation dans laquelle vous voulez fonctionner, il y a certaines normes auxquelles vous adhérez si vous voulez y participer. Et ces normes-là continuent à exister. Et si jamais la société trouve que les normes deviennent plus abusives ou les normes n'arrivent plus à faire fonctionner la société ou la corporation, on élimine ces normes-là et on va de l'avant. Le message de l'Église a toujours été celui de l'amour, de la réunification et du respect des personnes humaines, qui qu'elles soient. Ce que l'Église maintient jusque-là, c'est surtout l'amour et le respect du prochain et le respect de la nature.
Je signale que l'Église catholique travaille à une réforme dans le cadre d'un synode axé sur les thèmes sensibles du célibat, des prêtres mariés, la morale sexuelle et d'une place plus grande réservée aux laïcs et aux femmes. C'est une initiative lancée fin 2019 et qui doit s'achever en 2022. Athanase, côté Vatican, c'est silence radio.
Mais je comprends bien, parce que le Vatican, c'est une institution qui est masculine, qui est mâle. Moi, j'étais toujours surpris, et même quelque peu choqué, d'avoir traversé les couloirs du Vatican. Il y a beaucoup de femmes au Vatican, mais des femmes qui travaillent toujours dans des positions subalternes. Et puis, il n'y a aucune femme prêtre. Comment est-ce qu'on peut justifier, dans une église inspirée, respectable, comme l'Église catholique, que les femmes ne puissent pas accéder à la prêtrise, ne puissent pas accéder à l'animation de l'Église, au rang de prêtre, bien entendu, mais d'évêque, de cardinal, de papesse? Pourquoi est-ce que les femmes seraient exclues à jamais de réguler les relations entre les catholiques et leur hiérarchie, ou de fixer les normes sociales, religieuses, le dogme? Comment peut-on, au jour d'aujourd'hui, en 2021, donner une explication, une logique compréhensible et respectable à la mise à l'écart des femmes dans l'Église catholique? Ça me semble tellement choquant, tellement énorme. J'ai de la peine à retenir mon sentiment de révolte, parce que je connais le discours de l'Église catholique par rapport à la Vierge Marie, l'adoration infinie qu'elle mérite, je ne le conteste pas. Mais de voir que le culte rendu à la Vierge Marie s'arrête aux portes des sacristies ou des églises, et qu'aucune femme n'est honorée d'être la cardinale d'Argentine ou la cardinale du Burundi ou la cardinale de France, moi, ça me choque au plus haut point. Mais de toute façon, je rappelle ma position en tant que citoyen du monde, mais aussi un citoyen qui a réfléchi, un citoyen qui a embrassé l'Église catholique, qui a été élevé dans l'Église catholique, qui a beaucoup de respect par rapport à cette Église, qui m'a nourri, qui m'a enseigné, qui m'a donné toutes les chances que j'ai eues après pour poursuivre mes études. Mais malgré tout, cette Église, elle est traversée par des courants extrêmement puissants qui sont en train de la déstabiliser. Parce que, à mon avis, elle a tardé à donner une réponse simple, claire, par rapport à toutes ces questions de sexualité, de relations entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, on discute encore du sexe des anges et qu'on refuse la prêtrise aux femmes. Ce n'est pas possible que tous ces crimes de pédophilie interviennent dans une église où les gens, effectivement, s'engagent à rester célibataires. Et c'est très bien si un prêtre veut rester célibataire toute sa vie. Mais c'est excellent, c'est un engagement, c'est une preuve d'amour qu'il a à l'égard de sa communauté, de l'église. Mais le prêtre qui ne veut pas rester célibataire, pourquoi il n'aurait pas la liberté de pratiquer la religion dans la même dignité et dans le même bonheur pour des fidèles? Donc l'Église, à mon avis, elle n'échappera plus à ce grand débat qui touche à des choses extrêmement simples. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non, d'aimer qui on veut, quand on veut, sans ce regard inquisiteur, sans le regard qui juge, sans cette notion de péché, gardons le regard sur les droits des citoyens. Et quand il y a rupture des droits, là, il y a crime, il y a infraction. Mais le péché, c'est quelque chose qui reste extrêmement flou, qui reste extrêmement arbitraire. Il y a des choses qui étaient péché hier, qui ne le sont plus. Mais par contre, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la culture, c'est des droits éternels. Donc, raisonnons plutôt dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, un prêtre qui veut se marier, ce serait son droit. Un homme qui veut épouser un homme, c'est son droit. Une femme qui veut épouser une femme, c'est leur droit. Respectons-les. Ça ne touche en rien à leur capacité intellectuelle, morale, scientifique, musicale. C'est juste une relation d'amour entre deux êtres, point. La liberté pour les enfants de Dieu, point.
Professeur Bonghella, est-ce que le Vatican devrait s'exprimer sur ce qui s'est passé en Allemagne?
Bon, l'Église s'est déjà exprimée à plusieurs égards, mais je crois que l'Église va continuer à s'exprimer. Bon, pour revenir un peu à ce que...
disait Athanase.
Il y a beaucoup de déclarations là-dedans. Et c'est une critique acerbe de la structure même de l'Église. Et l'Église a choisi de marcher sur le pas de Jésus et de faire en sorte que les apôtres, les disciples de Jésus, qui n'étaient pas mariés, ne le sont pas à présent. Donc cette disposition pourrait changer dans le futur, ça dépendra de ce que la société nous réserve, mais aussi comment l'Esprit Saint va nous illuminer. Pour l'instant, c'est ça qu'il y a, c'est le fait que nous avons une Église qui a accepté de cette manière-là. Je suppose qu'aujourd'hui, on accepte que tous les prêtres se marient. Ça ne va certainement pas éliminer le problème de pédophilie. Je suppose qu'on accepte même que toutes les femmes deviennent prêtres ou prêtresses. On n'est pas sûr que ça va éliminer le problème de la pédophilie. Donc, il y a des questions de discipline, mais aussi des questions de morale fondamentale. Une société ne peut pas vivre dans la liberté pour la liberté. C'est pour ça que j'ai dit que chaque organisation, chaque société a certaines normes sociales qui doivent être respectées. Des normes qui disent ça c'est le bien à faire et ça c'est le mal à éviter. Quand ces normes n'existent plus, nous sombrons dans le chaos. Donc, une liberté pour la simple liberté n'existe pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se dire « je vais épouser un animal et nous allons respecter ça ». On ne le ferait pas, parce que la société va à l'encontre de ça. Donc ça, c'est un point important à marquer, que la liberté pour la liberté n'existe pas. Il y a toujours des frontières que nous ne devons pas franchir. Et l'Église a une certaine garantie que, d'après Jésus-Christ, vous voulez aller au ciel, voilà ce que vous allez respecter. Et une chose que nous oublions dans tout ça, c'est que tout ceci est fondé sur la Bible. Et la Bible parle peu, peut-être, de l'homosexualité, mais la Bible est très rigide vis-à-vis de l'homosexualité. Vous parlez par exemple de cas de Sodome et Gomorre, vous parlez du livre de Lévitique, vous parlez par exemple de Saint Paul lui-même et tout ça. Donc ils étaient plus radicaux ou plus radicaux vis-à-vis de l'homosexualité que l'Église ne l'est à présent. Donc la société est en train d'avancer, mais l'Église doit se maintenir comme le socle même de la moralité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à négocier. Maintenant, s'agissant de la réponse que l'Église doit donner vis-à-vis de la révolution, la révolte qui se passe en Allemagne, il y a déjà des réponses. En juin 2003, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait promulgué une lettre qui raffermissait la position de l'Église que le mariage serait entre un homme et une femme. Et immédiatement après que le pape actuel, le pape François, avait dit que nous devons beaucoup de respect où l'union civile est quelque chose de probable pour les couples homosexuels, immédiatement, c'est lui aussi qui a dit « mais nous savons que le mariage que nous acceptons de professer et de bénir dans l'Église catholique, c'est le mariage entre hommes et femmes pour la procréation. » Parce que ça, c'est important pour l'Église. Le mariage est d'abord pour la procréation. Tant que la procréation n'existe pas ou la possibilité n'existe pas, ce mariage-là, jusque-là, n'est pas accepté par l'Église. Donc je crois que l'Église est sûre qu'il y a une position qui va se faire prendre. La position a déjà été là, mais on va simplement renforcer cette position-là pour dire le mariage c'est entre homme et femme. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là-bas. Il faudrait que l'Église arrive aussi à rencontrer ceux qui sont dans l'opposition. Il y a des réformateurs et des conservateurs dans l'Église. Et l'Église catholique doit arriver à mettre tous ces gens-là ensemble et arriver à parler pour trouver une certaine harmonie. Si nous parlons de 2600 prêtres, par exemple, en Allemagne, qui se révoltent contre ce que le Vatican dit, ça vaut la peine de les écouter. Et Jésus lui-même avait dit, il y a des brebis de l'autre côté de, pas de la montagne, de l'autre côté de l'enclos, qu'il faudrait arriver à amener. Donc c'est vrai que l'Église devra faire un pas pour arriver à réconcilier tous ces enfants, homosexuels ou pas. Ils sont tous membres de l'Église d'abord, mais l'Église a des normes, mais des normes éthiques et des normes dogmatiques qui devraient être respectées d'une manière ou d'une autre.
Athanase, une réaction ?
Je respecte profondément son point de vue, je respecte ses réserves, je respecte profondément ses références bibliques. Mais pour ce qui me concerne, je suis passé par là aussi. Je connais trop bien ce monde de la religion et de l'Église catholique en particulier. Je sais qu'elle est très fortement inspirée par les valeurs morales ou les traditions du Moyen-Orient, un peu comme l'islam. Et je m'étonne toujours que ces deux grandes religions qui se sont imposées au monde tendent à faire croire que la norme ne peut être vue et vécue qu'à travers les yeux et les lentilles et les jumelles du Moyen-Orient. Et encore du Moyen-Orient, il y a 2000 ans. Je m'étonne toujours que les églises ou les grandes religions ne s'interrogent pas par rapport à la morale africaine. Comment est-ce que nous, les Africains, avons organisé les relations entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est important de le savoir pour l'Église catholique? Est-ce que l'Église catholique s'interroge pour savoir comment l'avortement était vécu dans nos sociétés africaines? Est-ce que l'Église catholique s'interroge pour savoir si les jeunes générations urbaines en Afrique, à Lagos, à Dakar ou à Bujumbura ou à Kisangani, vivent ces dogmes imposés du Moyen-Orient d'il y a 2000 ans? Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen d'avoir une vision plus simple, plus moderne, plus respectueuse de la diversité? On parle de la biodiversité dans nos forêts, dans nos rivières, dans nos mers, mais il y a aussi une biodiversité humaine, il y a une biodiversité dans la foi, il y a une biodiversité dans les traditions, il y a une biodiversité même dans les fantasmes. Mais pourquoi penser que le monde doit être décrit, régulé, selon des normes d'il y a 2000 ans quand Jésus était sur Terre? Il y est toujours, semble-t-il d'ailleurs, parce qu'il n'est pas parti. Mais ceci dit, moi je suis choqué toujours quand on ramène la norme qui doit réguler les sociétés humaines aux normes de l'Europe, qui a elle-même tiré ses normes du Moyen-Orient et qui ont essaimé le monde dans le monde entier. Mais bon Dieu, mais Dieu existait au Burundi, chez les pharaons, chez les Africains de l'Ouest, bien avant l'Église catholique, bien avant l'islam, et les femmes et les hommes, en tout cas dans la religion traditionnelle burundaise. On avait des prêtresses femmes qui régulaient les relations entre les humains, et ce n'était pas une société complètement sauvage. Au contraire, il y avait des normes morales, mais qui ne passent pas du tout par les normes de l'Église catholique ou de l'islam. Au fait, pourquoi est-ce que l'Église catholique ne s'interrogerait pas sur la polygamie, par exemple? Mais c'est une horreur quand on pense qu'aujourd'hui, un homme peut posséder, c'est posséder, 4 femmes au minimum. Mais c'est quoi ce monde où les femmes seraient les seules à être attachées à un seul homme, à plusieurs, et on ne verrait pas des femmes qui auraient 3-4 hommes à sa disposition? Non, il est temps que le monde accepte la diversité. Il est temps que l'Église catholique en particulier, qui compte beaucoup d'esprits éclairés, des intellectuels de très haut niveau, il est temps qu'ils ouvrent les yeux, les regards, et qu'ils acceptent que le prêtre vivra demain sa foi et sa religion, à mon avis, dans la liberté de son choix sexuel, homme ou femme mariée, pouvoir accéder à tous les niveaux de la responsabilité au sein de l'Église. Sinon, cette Église, elle va mourir. Elle va s'évanouir, elle va s'étioler, elle va perdre de sa force d'amour et de respect par rapport aux humains. C'est quand même ça le message principal du christianisme, mais aussi d'autres religions dans le monde. Sinon, cette Église va disparaître. Elle est en train peut-être de donner des signes de déclin. Il faut être attentif à ça.
Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions. Merci au professeur Jean-Pierre Bonguida. Vous enseignez le leadership à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. Merci beaucoup pour votre contribution.
Je vous en prie.
Merci à Athanase Karayenga, journaliste et consultant indépendant. Merci Athanase pour votre contribution.
Merci beaucoup Eric. Si je peux me permettre, mon prénom Athanase, c'est le prénom d'un évêque d'Alexandrie en Égypte qui au IIIe siècle avait mis tout le monde d'accord sur une notion qui s'appelle la consubstantialité de Jésus. Moi, j'ai hérité de ce nom, de ce beau nom, et je suis dans la consubstantialité de la liberté et de l'amour. Merci.
Merci de votre précision. Merci à Lionel Nanilagaima qui a assuré la mise en onde. Eric Mandelakidze a été avec vous à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.